Nous avons regardé le film, mais nous ne savons pas ce que nous en avons pensé les uns et les autres. Nous allons découvrir notre réaction en direct. C'est le principe du Café Multiverse. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui, puisque c'est le vendredi 1er avril. Voilà. Et ce sera une émission consacrée à un vieux film sorti il y a déjà. Ça va faire une trentaine d'années maintenant. Voilà.
En 94, ouais.
En 94, voilà, qui est un film très, très, vraiment, vraiment culte en France, on peut le dire, qui a marqué une génération, voilà, c'est le film Red is Dead. Bonjour et bienvenue dans ce 63e épisode du Café Multiverse, une émission exceptionnelle, je vous le disais, puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler d'un film récent, ni d'une série, ni d'une BD, mais bien d'un vieux film, puisqu'une trentaine d'années maintenant c'est vieux, même si nous on est des quarantenaires, voilà. Une émission encore plus spéciale, puisqu'aujourd'hui on reçoit Cobaye Étoile. Bonjour Cobaye Étoile.
Bonjour.
Qui est salut Cobaye Étoile, enfin,
qui quitte
la zone des commentaires pour venir co-présenter avec
voilà,
nous.
Il a quitté sa zone de confort pour venir avec nous présenter l'émission que je retrouve. Et je retrouve donc cette semaine encore à nouveau Greg Dizer. Bonjour Greg
Salut
Dizer.
Salut Pierre, ça va?
Donc j'ai rappelé
très
le principe. Oui, pardon.
Très content de faire cette émission avec toi, vraiment.
Oui, super, super ravi. Je suis hyper content.
Je crois qu'on
en
parlait depuis le début, hein, il me semble, hein, de parler de ce film. C'est une de nos grosses références.
C'est clair. À tous les trois, d'ailleurs, je pense aussi. Hein, toi aussi, Cowboy et toi, là.
Je suis très content de participer à cette émission. Oui, c'est un film que j'ai découvert vraiment, vraiment récemment.
Et alors, avant que tu rentres tout de suite dans les détails, on va quand même rappeler le principe de l'émission. Donc, j'ai dit, on le... D'habitude, c'est on découvre les réactions en direct. Bon, là, c'est vrai qu'on n'a pas, on s'est pas, c'est pas briefé avant, donc ce sera quand même total impro, comme d'habitude. Donc, première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous divulgâcher l'intrigue, même si, voilà, elle est très, très connue, voilà, que tout le monde a vu et revu ce film. Et on va commencer aussi par se présenter. Donc voilà, moi, en ce qui me concerne, j'étais pilote de robot géant auparavant. Voilà, et désormais, ben, j'ai pris ma retraite et j'élève des intelligences artificielles dans le Larzac. Voilà. Et toi, Greg Dizer, qui es-tu?
Ben écoute, moi, je suis community manager à Saint-Dizier, une petite ville de Haute-Marne. Et puis, dans une précédente... phase de ma vie, j'étais également militant communiste. Voilà.
Très bien, très bien. Et toi, Cobo Étoile, qui es-tu?
Alors, moi, je suis un ancien pilote de table basse en Formica et je suis actuellement vice-champion du monde de pétanque aquatique. Et
Voilà,
dans
alors
une
quand
autre
même.
vie, j'étais en charge d'un petit festival de moutarde à Dijon,
C'est
qui parle
formidable.
aussi
On a
de
vraiment
cinéma.
de la chance d'avoir des invités de qualité ici. On a perdu Greg, il est hors champ, c'est pas grave. Alors, Red is Dead, qui est quand même. On va commencer par, comme d'habitude, par le casting. On a perdu Greg. On a perdu Greg. Voilà, alors, Cowboy Étoile qui nous montre la pochette de la vidéo.
En fait, je suis un peu ému parce que. Tu vois, j'ignorais ça de toi, Cowboy Étoile. Moi, j'ai dû arrêter la pétanque aquatique sur blessure, donc c'est pas facile de de reparler tout ça.
Non, mais pleure pas.
Pardon, excusez-moi.
Donc ça va être une émission difficile, on le sent qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc le film, avec un grand casting quand même. Donc on a...
Simon Jérémy.
On a Simon Jérémy, qui était la vedette du film, qu'on n'a pas revu depuis. Je crois qu'il n'a rien fait depuis. Voilà.
Non. Non, c'est vrai qu'il il est rentré dans le cinéma très tôt. Et en fait, ça a été un passage éclair, quoi. Mais très remarqué dans le monde du cinéma.
Avec Sandy Brookshield aussi, David Bestoff, Don Voyal, Clint Conson. J'y peux rien, c'est leur nom, écoutez, c'est ce que j'ai trouvé sur la fiche Wikipédia.
En fait,
voilà.
En fait,
c'est beaucoup d'acteurs en fait,
que...
qui ont une carrière très éclair à cause de ce film et de tout ce qui a suivi ensuite.
Ça me permet de rentrer un peu dans le vif du sujet parce que En fait, quand on. Sandy Brookshield, ça ne m'avait pas choqué à l'époque. Et en fait, à l'époque, au même moment, à peu près, en 94, il y avait une top modèle qui s'appelait Brookshields. Et je pense que Sandy Brookshield, c'est un pseudonyme. Voilà. Et je crois, en fait, que ça me permet un peu de rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, c'est un film très avant-gardiste, Red is Dead, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de slasher movie. C'était pas vraiment revenu à la mode. Et c'est un genre qui dérangeait, voilà. Et mine de rien, quand on voit un peu ce qui est devenu l'équipe du film, on sent quand même que on
Et
leur a mis
sur...
des bâtons dans les roues, quoi,
ouais, et
voilà.
puis en fait, surtout, enfin, c'est un film dont on attendait une suite et qui la suite elle est jamais arrivée, mais c'est aussi suite à ce qui s'est passé au Festival de Cannes, pendant le Festival de Cannes qui a découlé de ce film, et enfin le drame que tout le monde connaît, quoi.
Ouais,
Voilà.
avant même, hein, avant, parce que quand tu regardes l'équipe du film, donc le On savait que le metteur en scène, il avait des problèmes de santé mentale. On savait aussi que le producteur avait fini en prison. Donc, voilà. Mais je vous dis, moi, bon, j'en viendrai après. Je pense qu'on va faire une partie spoiler aussi. Moi, j'y viendrai dans la partie spoiler, mais je pense. Enfin, je ne vais pas faire de complotisme, mais je crois quand même que toute l'équipe a été très empêchée. Et le fameux fait divers dont tu parles comme ça, je trouve que tout est connecté, moi, avec la destinée malheureuse de toute l'équipe.
Ouais, alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous souvenir de dans quel cadre vous avez été voir ce film. Moi, je sais que j'étais un petit peu traîné parce qu'à l'époque, enfin même maintenant, j'ai déjà dit dans l'émission, les slasher movies, les films d'horreur, etc., c'est pas forcément mon truc. Et moi, j'étais vraiment scotché par la qualité du film, par le message politique qui se dégage derrière. Et toi, Cowboy Étoile, tu te souviens un petit peu de tout ça?
Alors, moi, la première fois que j'ai vu Red is Dead, c'était vraiment il y a peu, lorsque j'ai fait mes études, où justement on a eu Odile Doré qui faisait une intervention en tant
Ah,
que
d'accord.
professeur, puisque suite à
Faisais des études de quoi, du coup, Cowboy
des études
Étoile?
en communication. Elle était
D'accord, ah
en
oui.
charge de nous faire la liaison entre les partenaires institutionnels et les personnes du spectacle, des choses comme ça. Donc c'est
Odile
vraiment
Doré,
elle.
si je me rappelle bien, c'était l'attachée de presse du film qui était au milieu
Oui,
du
qui était au milieu
scandale qui a
du
éclaté
scandale,
après.
oui, c'est ça. Voilà.
Tout à fait, tout à fait. Et elle a été beaucoup beaucoup affectée, et suite justement à cette affaire, elle s'est toujours réfugiée dans la communication, mais dans quelque chose d'un petit peu plus feutré, un petit peu plus cadré, dans la communication publique,
D'accord.
où elle a toujours continué le festival Moutarde et
Les
Cinéma.
cinémas.
Et justement, j'ai eu la chance d'être son stagiaire pour la 50e, 60e
Ah, c'est
édition,
chouette.
lors de la grande ouverture de la foire internationale de la gastronomie et du vin à Dijon. Ça a été légèrement avancé.
Excusez-moi.
Ça a été légèrement avancé pour que les dates puissent concorder, et c'était vraiment une grande chance pour moi de pouvoir travailler avec elle.
Alors vraiment une émission avec beaucoup d'émotions, on le sent, Greg, il est ému là.
Et moi, je me rappelle dans quelles circonstances j'ai vu le film. Bah, c'était pas une période super heureuse de ma vie. Et en fait, moi, je trouve que c'est un film qui est un peu oublié aujourd'hui, au profit, c'est-à-dire au profit de la série Scream, en fait. Moi, ce que je note quand même, c'est que donc Red is Dead est sorti en 94. Il n'a pas eu le succès escompté. Comme je dis, d'après moi, on a quand même fait beaucoup pour entacher l'aura du film et son propos, parce que c'est quand même un propos qui dérange, hein, ce que ça raconte. Red is dead, Red, on comprend tous, hein, c'est le communisme. Même si j'y reviendrai dans la partie spoiler, est-ce que Red is vraiment dead? A priori, pas tellement. Et en fait, 2 ans après, En 96, arrive le premier Scream, de Wes Craven, au cinéma, avec le succès mondial qu'on lui connaît. Et je trouve que, pour moi, Red is Dead était un vrai précurseur. C'est quand même ça qui a redoré un peu l'image du slasher movie. Hein. C'était un truc un peu poussiéreux comme ça, et d'un seul coup, je trouve que ça a mis, quelque part, l'humain dans le tueur. Là où avant, il y en était un peu plus Freddy, Jason, vous voyez, des
oui,
personnages...
c'était des monstres, c'était des personnages fictifs, souvent, ce qui... Là, c'était quelqu'un qui avait une vraie motivation par rapport à ses actes, ouais, effectivement.
Voilà.
C'est vrai que c'est un film très engagé. C'est un film très engagé. Et comment dire?
Moi, pour poursuivre un petit peu, hein, comme je vous dis, hein, moi, c'est quelque part, ça a été un peu une épiphanie, hein, ce film, quand je dis que j'ai eu
Tout à fait.
que je suis un peu, me suis un peu intéressé au communisme. En fait, au départ, moi, ado, en fait, hein, j'ai découvert ce film ado. Je me rappelle, hein, le film était vraiment dérangeant. Il y a des gens qui quittaient la salle et tout. Et en fait, moi, j'ai regardé jusqu'au bout. Et je suis vraiment sorti en me disant, oh là là, ces affreux communistes, heureusement, le capitalisme a gagné à la fin du film. Et au regard de ce qui se passe aujourd'hui, hein, sur notre planète, je me dis, le film a essayé de nous démontrer quelque chose, mais est-ce qu'au fond, il essayait vraiment de nous démontrer que le méchant était le communisme ou pas? Vous voyez? Parce que Simon Jérémy, qui joue, rappelez-moi le nom du personnage,
Benjamin.
qui joue
Benjamin.
Benjamin, hein, Benjamin s'en va, il a gagné à la fin, il écoute de la musique, il a battu Yuri, alors il pense avoir battu Yuri, et en même temps il part seul, voilà, hein, il a perdu Sandy, ils s'en contrefichent en fait, ça raconte quelque chose pour moi cette scène finale du film, bon pardon, je suis dans
Alors
le
oui, attention,
spoiler,
là
mais
t'es déjà
excusez-moi.
en train de spoiler. Enfin, je sais que le film a 30 ans, mais on a dit qu'on essayait quand même
Allez.
de pas trop révéler, de garder.
Excuse-moi, tu couperas au montage. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que le propos que tient le film, en fait, qui est un petit peu décalé comme ça, en fait, démontre quelque chose au regard de la politique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Tu le rejoins, toi, Cobolito, là-dessus? Ça t'a marqué, toi aussi, on va dire, parce qu'on était des adolescents à cette époque-là. Politiquement, ça t'a marqué? Ça t'a imprégné quelque chose, ce film?
Vu que je l'ai découvert vraiment sur le tard, durant les années 2010, oui, je me suis vraiment. Ça a été une sorte de flash où justement, avec les années Macron, quelque chose comme ça, on a l'impression que l'on revit un petit peu ce rêve américain 30 ans encore, hein, le discours communiste. De ce film fait encore écho aujourd'hui. C'est ça qui est percutant, alors que le film a été fait en 94. C'est ça qui est très remarquable, et il n'a pas perdu une ride de son message.
Moi, je me souviens que ça m'avait. Je suis passé totalement à côté du message politique. Je l'avais vraiment pris comme un divertissement au premier abord. Et c'est après, c'est en le revoyant encore et encore. Il y a plein de petits détails dont je parlerai aussi dans la partie spoiler qui m'ont marqué. Et il y a pas que ça parle même pas de capitalisme, ça parle aussi de monarchisme et tout. C'est vraiment impressionnant. Quand tu vois quand tu décortiques toutes les couches de ce film, tout ce que tu trouves derrière. C'est vraiment quelque chose d'assez puissant, et moi ça m'étonne pas qu'il ait été nommé à Cannes la même année, hein. Voilà.
Tout à fait.
Je disais, c'était un film qui avait un traitement de la violence qui était très particulière, et je me souviens qu'à l'époque, c'est d'ailleurs de là que ça découle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais après sa diffusion, il y a eu la création de la PETA aux États-Unis, parce que les gens qui étaient là, qui ont vu le film au Festival de Cannes, du coup, ont vu la violence envers les animaux, et ça a créé. C'est depuis cette époque-là qu'on voit dans tous les films, attention, aucun animal n'a été maltraité dans cette scène. Et c'est depuis ce film. On n'imagine pas comme ça, on se dit, voilà, c'est un petit film français, etc., qui n'a pas eu un gros succès, mais tout, il y a quand même tout ça qui a découlé de ce film, quoi.
C'est l'autre sujet polémique du film, c'est que au départ, effectivement, je crois que ça a été fait à une période où on prenait beaucoup moins soin des animaux dans les films. Et il y a beaucoup de gens qui étaient choqués par le réalisme cru, effectivement, de la violence envers les animaux. Et même, je me rappelle très bien des pétitions qui essayaient de faire retirer le film parce que beaucoup de gens pensaient que, enfin, c'est un peu pareil, je spoil un peu le film, mais pensaient que le chat
Toto.
qui était mort, ouais, Toto, le chat qui était sur le mur était un
C'était
vrai
trop
chat.
bien. Ouais.
Et
Ouais,
ça,
mais je
ouais.
sens l'émotion dans ta voix. Je me souviens qu'à l'époque, c'était quand même une scène qui était vraiment, vraiment très prenante.
Ouais.
Ça t'avait
Je
marqué, toi,
déteste les
Cowboy
chats
Étoile?
cependant, hein, mais bon.
Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était justement les interventions du présentateur, interprété par Serge Lurenz, où il décrivait de manière méthodique les morts de manière très abjecte. C'était vraiment la caricature d'un PPDA et d'un Laurent
Jean-Pierre
Ruquier,
Cardin. Ah non, d'accord. Ah oui, Cardin.
Hardisson, et cette politique de l'animateur spectacle qui met en avant tous ces meurtres était pour moi quelque chose de très choquant, de très abject. Et c'est quelque chose qui moi, m'a vraiment rebuté. Et je m'en veux d'avoir imaginé un jour voulu devenir un animateur comme le personnage de Serge Durens. C'est
Mais heureusement,
vraiment.
c'est pas ça que tu es devenu, puisque si on t'a invité avec nous ici aujourd'hui, c'est que on sait que tu es un animateur bienveillant. Et ouais.
Écoutez, je sais pas si on devrait pas déjà passer à la partie spoiler, parce qu'en fait, ce film, on a tellement de choses à dire, il est tellement riche que j'ai peur qu'on tourne vraiment en rond. Donc, je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie spoiler. On l'a dit, c'est un film à voir et à revoir, vous l'avez compris, c'est un film culte pour nous, c'est un film culte pour une génération. Et il y a des gens qui n'ont pas compris certaines scènes, comme par exemple la scène des clés de la voiture, c'est quand même une allusion parce qu'à un moment donné, il dit, ouais, je suis un descendant de Louis XVI. Alors nous, on dit, qu'est-ce que ça vient foutre dans le film là? Mais en fait, c'est ça, c'est pour ça, parce que je sais pas si vous savez, mais Louis XVI, il adorait réparer, trifouiller les serrures. Et ça c'est une allusion directe au truc. Et donc, on voit qu'il y a des couches comme ça. Je vais vous parler des couches tout à l'heure dans la première partie. Ça parle aussi de la position de la monarchie par rapport à la France, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient voir revenir un roi. Et puis, il y a aussi toute cette image du roi-président qu'on vit d'ailleurs aujourd'hui politiquement. Voilà, on est un petit peu avec la 5e République et à bout de souffle. On le sent très bien, ça. C'était déjà décrit. On était en 94. C'était vraiment précurseur, hein.
Oui, et puis moi, tu vois, je connaissais pas cette histoire de descendance dans le film, mais par contre, je trouve que la scène elle est très révélatrice, effectivement, de ce propriétaire qui a tellement de biens, qui a tellement, qui ne sait plus, c'est-à-dire qu'entre la clé, entre les clés de sa Mustang décapotable et les clés de son manoir, il ne sait plus laquelle est laquelle, quoi, tu vois. Et je trouve qu'effectivement, ça raconte beaucoup de choses, comme le fait qu'il soit très équipé dans sa voiture avec des appareils dernier cri. Merci pour ton analyse, Pierre. Moi, il y a autre chose que j'ai repéré, c'est quasiment au même moment, et c'est pour ça que j'y pense. C'est cet appel qu'il reçoit dans sa voiture sur son téléphone de voiture dernier cri. C'était avant les téléphones portables, hein, 94, on ne se rappelle plus, mais voilà, c'était comme ça. Et là, on brise le quatrième mur parce que soudain, un proche de Benjamin lui téléphone pour dire attention derrière toi. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un spectateur qui est du côté? Est-ce que ça. Est-ce que, je me suis dit, tu vois, avec. Là, je crois que j'en suis au 184e visionnage, tellement c'est culte pour moi. Et je me suis dit, tu vois, si ça se trouve, c'est. Ce que raconte le metteur en scène, là, c'est. On est tellement du côté des capitalistes, de ceux qui ont la villa, la piscine, tout ça, on est tellement de leur côté, on a tellement envie qu'ils survivent, hein, parce que c'est ce que le film essaye de nous raconter, qu'à ce moment-là, est-ce que c'est pas, au fond, un spectateur, tu vois, ça brise le quatrième
Ouais,
mur,
c'est
qui vient
vrai. Ouais, j'avais
prévenir,
pas
tu
vu
vois,
comme ça, ouais.
Voilà. Et ça, pour moi, j'y vois presque un miroir. C'est-à-dire que c'est le film opposé à Funny Games, tu vois. Vous l'avez vu, Funny Games?
Non.
Non? D'accord.
Malheureusement, non.
Ben, en gros, je ne vais pas trop vous raconter, mais il y a un moment donné, donc c'est des gens qui sont très, très, très méchants. Et qui, ils sont, à un moment donné, ça loupe, quoi. Ils se retrouvent à pas avoir réussi à faire une victime de plus. Et du coup, ils saisissent une télécommande et ils rembobinent le film et pour réussir quand même finalement à... Donc là, c'est un gros spoiler, mais on est dans la partie spoiler aussi. Et là, moi, voilà, j'ai vu la même valeur. Et alors que Funny Games, c'est un film des années 2000, je crois, au début des années 2000. Là, donc, encore une fois, chapeau, Cocorico, parce que on avait un cinéma français qui était quand même très burné, quoi, qui avait pas peur d'essayer de tenter des trucs, quoi.
Et toi, comme bébé, toi, il y a une scène qui t'a marqué plus que les autres?
Disons que la mort de Toto était vraiment très très horrible. Mais vraiment, ce qui m'a plus marqué, c'est en fait comment justement cette personne dont on ne sait pas le nom a pu projeter, enfin pu aider certains personnages comme les Johnson. Il faut quand même, à un certain moment, je me suis dit, c'est pas possible. Pour qu'on en sache autant, Yuri, le tueur, ça doit être forcément quelqu'un de son entourage, je sais pas, Jim ou Clint Conson, pardon, Jean-Paul. Et c'est quelque chose où justement, c'est quelque chose qui est encore imprégné.
Et c'est
Moi,
ça qui est terrible,
j'ai
parce qu'en fait, on n'a pas eu la suite, alors qu'on voit bien que c'est une
Non.
fin super ouverte et qu'il laisse plein de questions en suspens. Et je suis vraiment déçu, moi, qu'on n'ait pas eu une suite à ce film. Excuse-moi, je t'ai coupé, Greg.
Non, c'est moi. En fait, pour moi, les Johnson, je ne pensais pas forcément à ce que ce soit. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'identité de Yuri. J'ai jamais pensé que c'était un pseudo. Je pensais que c'était vraiment le nom du personnage qui incarne, hein, qui incarne le communisme ou la pourriture communiste, comme dit Benjamin. Moi, je pensais que les Johnson arriveraient dans le 2, puisque là, on a Benjamin qui s'en va, qui a sa fin heureuse, hein, qui fait sonner la cucaracha avec sa voix de klaxon de la cucaracha. Donc, on se dit, bah, ça y est, lui, il est parti, il part au Mexique, quoi. Et en fait, je me suis dit, vu que Yuri ressort, je me suis dit, les Johnson sont censés arriver juste après. Donc ils vont tomber là-dessus et ça va être les prochaines victimes. Et moi, les Johnson, j'ai toujours imaginé que ça puisse être une famille complète avec enfants et tout. Donc voilà, je m'attendais vraiment.
Et moi
C'est
c'est
ma
pareil,
grosse déception de la licence.
moi je me suis dit, est-ce que finalement ils voulaient pas s'en prendre Johnson, mais comme les amis sont arrivés plus tôt que prévu, c'est tombé sur eux par hasard, tu vois. Et que leur première victime c'était Johnson, parce que Johnson, non américain, tu vois la différence. Donc je me suis dit, ça m'a toujours tiqué. Et je suis frustré que 30 ans après, on n'ait toujours pas la réponse, quoi.
Ben, il faudrait, voilà, moi je vais faire un petit appel, hein. Comme on est des gros influenceurs et qu'on est vu beaucoup, énormément, hein, par toute la grande famille du cinéma, voilà, moi j'aimerais faire un appel aux metteurs en scène, à ceux qui, voilà, qui pensent qu'ils ont quelque chose à dire. Je pense qu'il y a moyen aujourd'hui de faire Red Is Dead 2, de contenter la masse infinie de fans, parce que c'est vrai que c'est pas... Il y avait peu de gens au cinéma, hein. Moi, quand j'y étais, il y en a quand même plusieurs qui sont partis pendant la séance. Mais c'est un film qui a su gagner une vraie communauté de fans par la VHS, par le DVD, Je crois qu'il y a eu un Blu-ray aussi. Tu me confirmes, Cowboy
Tout
et
à
toi?
fait.
Oh, la vache. Mais quelle chance tu as.
Il est
Allez.
dur à trouver celui-là.
C'est un des rares. C'est un des rares. Et justement, on a dans les bonus derrière la version d'origine, non remasterisée, avec les bruitages à la bouche, à l'ancienne.
D'accord.
Puisque on était aussi en 94, durant la grève des doubleurs.
Ah oui, exact.
Donc ce sont vraiment les comédiens qui, à un certain moment, ont fait les doublages à la bouche. Je pense que c'est aussi ça qui a provoqué le fait que le producteur a été en prison et que le metteur en scène a l'asile, parce que il y a eu vraiment une volonté de faire le plus réaliste possible.
D'accord.
Et
Mais
puis,
de fait, ils respectaient pas la grève, c'est ça, si je comprends bien.
ben disons que ce sont vraiment les acteurs qui ont fait eux-mêmes certaines séquences doublées entièrement à la bouche,
D'accord.
certains
Ouais, puis
bruitages.
oui, et puis comme tu dis, il y a eu une vendetta contre eux parce que c'était un peu paradoxal d'un côté, ils dénonçaient le capitalisme, etc. Et puis de l'autre côté, ils n'ont pas soutenu la grève des doubleurs. Donc moi je te rejoins, Greg. Je pense qu'il y a eu quelque chose contre eux. Il y a eu vraiment quelque chose au plus haut sommet de l'État sur lequel on ne saura probablement jamais rien. Ça fait déjà plus de 30 ans maintenant, voilà. Donc moi je suis comme vous, je vous rejoins là-dessus. Il y a quelque chose de louche qui fait que malheureusement on n'a jamais eu de suite à ce film.
Et à propos de trucs touches, Cowboy Étoile, toi qui as fréquenté Odile de Rey, est-ce que tu as pu t'entretenir avec elle sur le tueur en série, hein, comment on dit, celui qui a mimé, hein, le Yuri à Cannes et qui a abattu froidement tous ses projectionnistes. Qu'est-ce que c'est son regard aujourd'hui? Parce que franchement, moi à l'époque, au moment du drame, avec tout le contexte politique, cet homme politique écologiste qui avait été assassiné, on disait que c'était un certain Jean-Paul Martoni qui l'avait abattu, on savait pas trop, et puis il y avait tout ce mystère, quoi, hein, on se rappelle du commissaire Vialès qui passait sans cesse dans les journaux pour... C'était... Enfin, il y en a eu d'autres, des affaires comme ça, hein, je pense à Dupont de Ligonnès, je pense à l'assassinat du préfet Erignac. Voilà, ça fait partie de ces affaires qui ont entaché le paysage français, en plus dans le monde du cinéma, alors qu'on est quand même censé être dans le divertissement. Et là, d'un seul coup, là, la réalité dépassait la fiction. Et au centre de tout ça, on avait toute l'équipe du film. Donc, est-ce que toi, tu as pu en parler avec elle?
Alors malheureusement, j'ai pas pu en parler beaucoup avec elle. Peu de temps avant le festival Moutarde et Cinéma, on a eu l'annonce du décès de Simon Jérémy, qui malheureusement nous a quittés. C'est donc quand on est maintenant sur l'aspect de qui pour relancer Red Dead 2, je pense que qu'Odile Doré, elle a toujours ses contacts, mais sur le moment présent, c'était quelque chose où elle se sentait vraiment mal. Entre les projections presse et les interrogatoires, il y avait très peu de temps pour elle, et elle devait gérer aussi quelque chose qui n'est pas montré, mais il fallait aussi gérer la violence de Serge Karamazov, qui était censé être le responsable de la sécurité, et qui a fait un travail déplorable. À un certain moment, on
Enfin,
imaginait
il a fait
même.
un travail déplorable, mais il a quand même fini de ministre de l'Intérieur, hein, je peux
Tout
le
à
dire.
fait. Tout à fait.
C'était pas
Mais.
son frère qui était... Parce que c'est lequel des frères, Serge? Je pensais que c'était celui qui faisait C'est pas celui qui a fait de la politique après, si? Ou je sais plus.
Aucun
Ok.
lien, il est fils unique.
D'accord.
Vraiment sur les premiers moments, sur les premiers crimes, Serge Karamazov a été entendu comme un témoin, puisqu'on retrouvait ses empreintes partout, et il était jamais là au moment où le tueur était censé être là. Et il n'a pas réussi à faire son travail correctement. Et je pense que avec le commissaire Bialès, il a pu se racheter. Et cette affaire, justement, depuis 95, le fait qu'il a réussi à passer ce cap l'a permis, comme l'a dit Pierre, de devenir ministre de l'Intérieur quelques années plus tard.
D'accord, mais au-delà du fait que moi j'étais très fan et que, enfin, que je suis de, plus le temps passe et plus je suis fan de ce film, il y a quand même un truc qui m'a traversé l'esprit, c'est que tout de même, un copycat du tueur du film qui vient assassiner des projectionnistes à Cannes, est-ce que ça n'a pas servi le film? Est-ce que tout ça n'était pas un vaste complot de l'équipe du film.
Non, mais
Donc
on va
je
pas
pense
rentrer dans
à.
les histoires de complot. Non,
C'est vrai,
franchement,
non, mais c'est vrai que
non. Je crois
c'est pas
pas. Non, je
l'ambiance de
sais qu'il y a eu
l'émission.
cette théorie qui a été soulevée à un moment donné, mais moi, personnellement, j'y crois pas. Je crois pas un seul instant. Je pense
D'accord.
plutôt qu'au contraire, faut regarder du côté voilà, de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait que les producteurs n'ont pas respecté la grève des doubleurs. Mais moi, le coup de, ouais, ils ont fait un, ils ont fait des, enfin, ils ont provoqué tous ces meurtres pour faire parler du film. Non, mais ça n'avait, pour moi, ça n'avait pas de sens, quoi.
D'accord.
Ça me paraît tellement énorme, tellement gros. Enfin, voilà.
Oui, et puis je pense qu'on aurait retrouvé des indices.
Oui,
Imaginons si
voilà.
Odile de Rey avait été impliquée, on aurait retrouvé, je sais pas moi, des messages ou des empreintes, comme tu disais, ou quelque chose qui aurait rattaché à elle, mais rien n'a été retrouvé malheureusement.
À la base,
Ou
il y a
heureusement.
eu.
Hein?
À la base, il y a eu un projet justement, mais c'était avant les premiers meurtres. Et lors du premier meurtre, elle a été dépassée par tout ça. Tout ce pan de promotion a été annulé. Elle a été même approchée par Rony Abitbol pour justement faire l'adaptation américaine, la promotion de l'adaptation américaine, mais elle était vraiment choquée et elle n'a pas pu le faire.
Oui, moi je
C'est
suis persuadé qu'après, c'est, tu disais Greg, t'en parlais tout à l'heure par rapport à Scream, mais que c'est que pour ça, du fait qu'ils n'ont pas eu les droits, ils ont fait Scream ensuite, voilà. Et
Ouais, mais
avec le
alors pour
succès qu'on lui
vous.
connaît, mais voilà.
Ouais, mais justement, bah je vais mettre un peu, je vais jeter un pavé dans la mare ou dans la mare de mazout. Mais est-ce que pour vous, Scream, c'est dans le même genre
Bah
cinématographique que
non,
Red Is
il est
Dead
pas
ou c'est
aussi
un
engagé, il est
plagiat?
pas aussi
Voilà.
engagé, Scream, c'est clair. Il
Oui,
est
mais est-ce
politiquement
que
pas
vous
aussi
voyez pas une
engagé.
forme de plagiat à Red Is Dead?
Alors
Parce
oui, là pour
que
le coup, oui, il y a du gros plagiat, ça c'est
on le dit pas assez,
évident.
je
Oui,
trouve.
oui. Le fait que, comme tu dis, c'est pas un monstre, c'est une vraie personne avec le masque, etc., qui fait peur. Non, mais c'est clairement un plagiat. Et puis rien que dans la scène d'ouverture de Scream avec le téléphone, enfin voilà. Hein. Donc bon, c'est le téléphone, c'est un truc super récurrent dans les différentes scènes de Red Is Dead. Donc effectivement, pour moi, il y a un plagiat majeur de la série Scream par rapport à Resident Dead. C'est évident. Qu'est-ce que t'en penses, ton
Oui.
cowboy d'étoile?
Au-delà du plagiat, c'est aussi une adaptation américaine. Il faut dire que la fin du film a été rythmée par de nombreux gags, de nombreuses occurrences humoristiques qui ont été faites vraiment sous le craquage de l'équipe parce que les rythmes de tournage étaient insoutenables.
Ouais, mais alors, excuse-moi, je t'interromps tout de suite parce que je suis pas tellement d'accord avec toi sur le craquage. Je pense que autant on parlait de la dimension politique, autant on mesure pas à quel point la façon dont Yuri se fait jeter, rejeter dans le mazout, il y a un côté décalé volontaire, hein, c'est-à-dire que le capitalisme ne va pas seulement avoir raison du communisme dans le film, mais va aussi l'humilier proprement. Pour qu'il ait plus envie de se venger encore. Et là, moi, j'y vois autant. Je fais un parallèle, en fait, entre ce film-là, qui serait un peu le mariage entre un Scream, même si Scream a tout plagié et a tout pris à Red Is Dead, et un Scary Movie. Moi, j'y ai pensé en regardant Scary Movie. Je me dis, Red Is Dead, il a inventé deux genres. C'est-à-dire qu'il a inventé il a remis au goût du jour le slasher, et il a aussi montré qu'on pouvait faire rire, mais rire jaune, avec du slasher.
Mais
Je l'avais pas vu sous cet angle, effectivement. Excuse-moi, je t'ai coupé, Cowboy Étoile.
C'est moi qui m'excuse. Effectivement, Scary Movie a été un petit peu la suite, la filiale de
Rituel,
Red Is Dead, même
ouais.
si justement le plus gros du travail, c'est les As qui l'ont produit. Et je pense que c'était vraiment sur juste avant le fait que le metteur en scène soit interné, que ces scènes ont été créées, que les scènes ont été tournées et qu'il n'y avait pas eu la possibilité de tourner de nouveaux rushs, que la fin a été aussi humoristique, même si le propos du film
Oui, elle est un
n'est
peu
pas
bâclée, la
celui-là.
fin, c'est vrai. Je pense que
Et
c'est ça qui lui a apporté préjudice à ce film.
je pense, ouais. Ouais. Et je pense aussi que certaines personnes du Parti communiste ont été humiliées par ce film, par les propos, par le fait, ben, comme disait Gray, d'être jeté, rejeté dans du mazout, manquait plus que les plumes, et puis c'est bon, on a le châtiment
Les
de...
plumes y sont avant, hein, parce que tu sais, à un moment donné,
Mmh.
il y a
Oui, c'est la
quand
symbolique du film
Yuri
avec...
se
Ouais.
bagarre avec un canapé, là, quand je vois comment ça s'appelle, les pubs poltron et sofa partout sur YouTube, je me dis, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a loupé, quoi? Comment ce film a pu louper l'évidence, quoi? C'est-à-dire le public plutôt, hein, comment le public a pu louper tout ça? Après, moi, au-delà de ça, j'ai cru comprendre aussi que le comédien Simon Jérémy, bon, je ne veux pas dire du mal de lui, mais paix à son âme, il y avait beaucoup de difficultés avec lui, notamment il semblerait que les effets spéciaux le rendaient très malade, c'est-à-dire que il avait peur de la vue du sang, je crois, ou quelque chose comme ça, en tout cas, il avait tendance à vomir beaucoup. Donc ça a rendu la production de la fin du film assez compliquée.
Ça,
Ça,
j'étais
j'étais
pas
pas
au
au courant,
courant, effectivement.
c'est vrai qu'il avait des gros problèmes de santé, il vomissait beaucoup. Ensuite, c'est, je pense qu'il avait aussi quelque chose qui était à travers lui. À la fin du film, à la fin du festival, on a appris, et enfin, Odile Doré l'a très bien caché, hein, pour éviter que ce soit des scandales dans les magazines People, ses hospitalisations. Ces nombreuses, nombreuses hospitalisations. Le fait qu'il ait arrêté de faire des films a été toujours caractérisé par le fait qu'il soit consultant sur une chaîne de télévision ou sur un autre film pour justement le mettre en retrait, pour le préserver son corps, parce que les dernières années, il était intubé, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait plus boire. C'était vraiment pour Odile, un soulagement à quelques jours de Motard des Dijon, Motard des cinémas, de lui rendre hommage. C'était pas du tout un but à la base, mais on a dû revoir vraiment à la toute fin, en 24, 48 heures, tout le programme pour pouvoir mettre en place une filmographie sur lui, sur ses influences. Et c'est un personnage qui malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le fréquenter, mais était un grand homme du cinéma. Et travailler très
Rentrer dans le
discrètement.
cinéma très tôt, hein.
Ouais.
Grâce à des contacts.
Notamment l'ouvreuse qui, par la suite, lui a permis de rencontrer un premier patron de cinéma qui lui a permis, avec l'argent qu'il a pu réaliser avec le film, s'acheter plusieurs cinémas, avoir un petit complexe qui maintenant a été racheté par Lagomont, par Pathé, de cinéma qui était aux alentours de justement Clermont-Ferrand, avec des salles un petit peu partout en France. On arrive déjà à la fin de cette partie spoiler. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce film culte, voilà,
Bah
qu'on
oui, pour
invite tout le monde à
moi,
aller voir?
ce que j'aimerais rajouter, c'est voilà, voyez ce film. Revoyez-le pour comprendre toutes les dimensions politiques. Il n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui, je trouve. Et voilà, pour moi, c'est. On se dit, hein, Pierre, c'est déjà arrivé que tu te lances un peu contre le cinéma français en disant, mais pourquoi vous faites pas plus de films de genre, ou
C'est vrai.
pourquoi transformer, voilà. À un moment donné, on se disait, un film français, qu'est-ce qu'il aurait fait de cette intrigue avec un couple dans un pavillon? Probablement pas ça, un film classique français comme de nos jours. Donc, prenez-en de la graine, les
Oui, c'est vrai
réalisateurs.
que ça, c'est une chose dont j'ai pas parlé. Tu me fais bien de me le rappeler. Il n'y a pas cette chose, par exemple, qu'on trouve dans tous les films français, le coup de la tromperie, tu vois. Ça, là, c'est une limite systématique dans tous les films français de retrouver ces deux dimensions-là. Non, là, ils sont vraiment dans le slasher, vraiment dedans, à fond. Et il n'y a pas d'aspect moralisateur, enfin de faussement moralisateur. Il y a des messages qui sont transmis, mais ils sont transmis vraiment de façon... de façon intelligente, après plusieurs lectures, on les comprend, voilà, on peut se remettre en question grâce à ça. Alors que ça arrive pas avec des gros sabots, avec les habituelles choses qu'on peut retrouver dans le film, cinéma français. C'est vraiment un film du genre et qui s'est quasiment arrêté net, hein, dans le cinéma français. On l'a pratiquement pas revu depuis. Il y a des réalisateurs qui ont fait des films après, des films d'horreur, mais plutôt soit petit budget, soit aux États-Unis. Mais côté cinéma français, il y en a malheureusement encore trop, trop peu.
Je peux le comprendre parce que quand on a un film aussi précurseur que celui-là, qui a la vie qu'on lui connaît, c'est-à-dire la vie médiatique, on parle de film maudit hein, dans ces cas-là, hein, quand il arrive autant de saleté à l'équipe d'un film, à tous ceux qui travaillent dessus, on se dit bon bah c'est un film, voilà, c'est un genre maudit, il faut pas que j'y aille, on va rester dans la comédie. Et peut-être même imaginer qu'il n'y ait pas eu tout ce battage et tout ce drame autour de ce film, peut-être même que tout le cinéma français en aurait été très impacté.
C'est vrai. Un dernier mot, Cowboy Étoile sur Red is Dead?
C'est très compliqué tellement il y a de choses à dire. C'est vrai que c'est une comédie, enfin c'est un film, c'est un slasher. Et il a ouvert pas mal de voies. Et on a de la chance que maintenant on a des éditions Blu-ray. Je le remets là. On a des éditions Blu-ray qui existent. Avec justement quelque chose qui rend hommage à ce cinéma de genre. Et c'est vraiment une version remasterisée, vraiment. Je tiens à le dire, hein. On peut remercier.
Tu penses que ça valait le coup, toi, t'es content de cette version?
Elle corrige certains défauts, puisque là, ça a été vraiment remasterisé sur les bobines de l'époque.
Ok.
Et
On est dans un
on a.
format 4 tiers ou 16 neuvième, du coup? Est-ce qu'ils ont réussi à récupérer les morceaux de la VHS qui manquaient, qui ont été coupés?
C'est ça, sur ils ont utilisé les intelligences artificielles que Pierre
Défend
emploie
tellement, ouais.
dans son
Il
entreprise
les
dans
finance même,
l'Arzac,
hein, d'ailleurs, Pierre.
tout à fait, pour pouvoir reproduire ce type d'image recadrée. Et il y a pas mal de détails qui maintenant sur une version physique sont visibles, qui ne l'étaient pas avant. Et je tiens à remercier vraiment la technologie, les collègues des entreprises sur l'intelligence artificielle, puisque on a de nouveaux bruitages, on a restauré l'audio des pistes vocales, donc on a plus ce côté amateur de 94. On est vraiment dans une expérience totalement différente.
Ouais.
Totalement
Moi j'avais
différente.
la, alors tu vois, j'avais la version DVD qui était sous-titrée pas Adieu Yuri, mais Au revoir Yuri, parce que tu vois, qui jouait sur le fait que probablement il allait revenir. Bon, bah, je suis un peu douché, hein, j'ai été très déçu, mais je suis content parce que je vais pouvoir me procurer cette version-là. Merci beaucoup. Si tu as un lien d'ailleurs dans la
Alors
description de
on
l'émission
vous
pour.
mettra le lien dans la description s'il est trouvable, ou en tout cas sur la référence pour que vous puissiez le trouver. Et sans
Génial.
transition, on passe aux recommandations de la semaine. Voilà. Hop.
Quelle émission. Que d'émotions.
Cowboy Étoile, tu es notre invité. Honneur à toi. Quelles sont tes recommandations de la semaine?
Alors, je vais partir sur quelque chose qui est totalement autre. Un livre qui s'appelle Drag, l'autre visage des Queens et des Kings.
Ok.
C'est vraiment un livre qui parle des drag kings, des drag queens et des drag queers qui sont entre les deux. C'est un livre qui est plus sous forme de portrait, avec justement, je vais essayer de trouver une image qui soit un petit peu plus compatible, avec justement une partie.
On voit pas forcément bien, mais on mettra le
On
lien dans
voit
la
pas forcément.
description.
Une partie de dessin, et puis vraiment tout un
Un portrait.
documentaire, tout un entretien en fait avec la
Alors on
personne.
ne voit pas, c'est pas
C'est
grave.
joli,
D'accord. Bah, on mettra
ouais,
le
on
lien dans
voit
la
rien,
description.
c'est
Donc
joliment
c'est.
illustré.
D'accord. Ok. Donc c'est Drague de Sofiane Aïssaoui.
Tout à fait.
Illustration de Valentin Pasquier aux éditions La Musardine.
Tout à fait.
Et toi, Greg, quelle est ta recommandation de la semaine?
J'ai presque envie de te laisser commencer,
Tu as
Pierre,
presque envie de me laisser commencer? Ben écoute.
pour voir quelle est ta recommandation, tu vois.
Très bien. Ben écoutez, moi je vais vous recommander ce film en fait, qui raconte ce qui est arrivé en fait à l'équipe du film après le vrai
D'accord.
film. Enfin, c'est une sorte de. Pas de biographie, on ne peut pas le dire comme ça.
Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle La Cité de la Peur. Voilà, donc
La Cité de la
ça
peur.
raconte en fait le meurtre des projectionnistes dans après
C'est
la, la...
un documentaire ou...
C'est une... Oui, c'est une sorte de documentaire, si tu veux. Enfin, c'est un film documentaire, c'est-à-dire que c'est un peu comme JFK, tu vois. C'est-à-dire que ça te prend un
D'accord.
point de vue, ça te raconte l'histoire comme eux, ils l'ont perçu, comme le réalisateur Alain Berberian l'a perçu. Et
D'accord.
donc il y a Dominique Farrugia, que je ne connais pas du tout, qui joue Simon Jérémy. Il y a un gars à lunettes, je ne sais pas non plus comment il s'appelle. Et puis elle, je crois que c'est la mère de la chanteuse de Superbus qui joue Odile Deray. Voilà. Donc
Ah bah
bah, c'est
d'accord.
intéressant, ça reste dans la thématique, donc je vous le conseille, ça s'appelle La Cité de la Peur. Voilà.
Et pour une fois que c'est une mère d'eux et pas une fille d'eux qui fait quelque
Oui,
chose, à la
voilà, pour une
limite,
fois que c'est une mère
j'encourage.
de. Voilà, c'est ça,
J'encourage.
exactement. Voilà. Donc à toi, Greg, quelle est ta recommandation de la semaine, s'il te plaît?
Alors, là en ce moment, moi je suis en train de travailler sur le tome 2 de Cléo Super Sirène depuis quelques semaines déjà, mais je suis rentré dans le dur vraiment depuis une paire de semaines. À un moment donné, je sais pas, j'avais envie de faire une scène et je me suis remémoré une scène d'un animé qui s'appelle Fuma no Kojiro. C'est adapté d'un manga de Masami Kurumada. Le chara-design, il est fait par Shingo Araki, Michi Himeno. On est vraiment sur la team Senseiya. Et en fait, j'ai réussi à retrouver sur YouTube quelqu'un qui a uploadé. Moi, j'avais les VHS à l'époque. Hein, quand Pierre et moi, on s'est connus, on les a pas mal regardés. Et donc, qui a uploadé les épisodes en VF. Et en fait, j'ai eu la chance, du coup, de redécouvrir. Justement, on parlait de tout à l'heure, tu parlais de la grève des doubleurs. Je vais essayer de ne pas être trop ému aussi, mais j'ai eu la chance de redécouvrir cet âge doré, hein, c'est vraiment l'âge d'or du doublage, parce que ils ont réuni vraiment au casting les meilleurs doubleurs de films X, hein, pour faire ce doublage, pour proposer ce doublage en français d'un animé qui a
Qui
un
n'était
petit peu...
pas connu, hein, parce qu'il était sorti en
Non.
OAV, il est passé totalement inaperçu au
C'est ça.
Japon, voilà. Hein.
Et en fait, on parle beaucoup de Ken le Survivant pour vanter les qualités de son doublage. Je pense qu'on est très très loin avec Ken le Survivant du niveau d'excellence qu'ils ont atteint sur Fuma no Kojiro. Donc je mettrai un lien vers le premier épisode. Je pense notamment au moment où il dit c'est mon arme secrète. C'est
Ouais, je
mon
me
arme
souviens très bien.
secrète.
Je me souviens
Hein,
très
tu
bien
te
de cette
rappelles
scène. Ouais,
de ce passage?
c'est vraiment culte.
Voilà. Et donc je voilà. Enfin, je rêve, je rêverais. J'adore le doublage. Hein. J'aurais rêvé d'atteindre, enfin, de
Bah,
participer à
on
des
peut te souhaiter qu'une chose, c'est que Cléo sorte en animé et que tu puisses avoir des
faire appel
doubleurs
au
de
même
cette
comédien.
qualité. Voilà.
Eh ben, écoute, j'espère.
Voilà,
Écoute,
voilà.
j'espère.
On touche à la fin de cette émission. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie en ce samedi 1er avril 2023. Cowboy Étoile, merci de t'être joint à nous pour cette émission.
Ben, merci à vous pour cette invitation.
Greg Dizer, on te retrouve la semaine prochaine, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est déjà l'émission consacrée à Mario le film.
C'est ça.
Une
Et
vraie
alors
émission cette fois-ci.
je suis embêté parce que je tiens à saluer Anne-Claire parce que depuis tout à l'heure on a Anne-Claire dans les commentaires et personne n'a relevé. Moi-même, j'avais pas vu.
Bah, j'ai pas pu relever, j'étais trop ému.
Voilà, c'est ça, on était trop dans l'émotion. Donc merci Anne-Claire d'avoir relevé tout ce qu'on a dit. Elle a l'air d'accord avec tout ce qu'on raconte. Donc merci à toi et à la prochaine.
Alors donc on vous dit à très bientôt et Cowboy Étoile, on sera ravis de te retrouver bah, soit dans les commentaires, soit dans une prochaine émission.
Mais
Ciao,
oui.
ciao!
Salut.